France, 7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les familles chinoises. Vous le savez, le Parti communiste chinois autorise désormais tous les couples à avoir un deuxième enfant. Après 36 ans de politique de l'enfant unique, cette décision va-t-elle endiguer le vieillissement de la population chinoise et relancer du coup l'économie, entre autres par la consommation des ménages? C'est évidemment une question tout à fait ouverte. Que vont faire les Chinois finalement de cette liberté d'avoir deux enfants? Est-ce vraiment la fin d'une nation de petits empereurs, comme sont surnommés ces enfants gâtés, mais aussi sous la pression du destin familial, de la réussite scolaire, finalement d'une décision politique à l'intimité d'une chambre à coucher? Quelles sont les subtilités de la démocratie à l'échelle d'un pays, je vous le rappelle, grand comme un continent, de 1 360 millions d'habitants? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités. Isabelle Attané, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe, sinologue à l'Institut National des Études Démographiques. Vous avez déjà publié « Au pays des enfants rares » chez Fayard et vous préparez un livre sur la croissance chinoise et son essoufflement. Yihan Hu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chinoise à Paris. Vous travaillez pour la chaîne China Business Network. Vous participez d'ailleurs régulièrement au rendez-vous des tchatcheuses. Mais là, vous serez aussi là en tant qu'enfant unique chinoise.
Voilà, être un témoin.
Joris Zilberman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de publication d'Asialiste. C'est un site d'information exclusivement dédié à l'Asie. Vous êtes aussi ancien correspondant de France 24 et de RFI en Chine. Combien d'années en Chine?
8 ans.
Oui, ça fait pas mal.
C'est
et quant
bloc.
À vous, les voisins qui nous écoutez, les voisines, n'hésitez pas à questionner en direct nos invités sur l'enfant unique en Chine. Vous postez tous vos messages sur les réseaux sociaux ou bien vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Isabelle Attané, quand on dit que la Chine vieillit, on en est où exactement ?
Alors aujourd'hui, la Chine n'est pas un pays très vieux, mais elle vieillit parce qu'effectivement, dans les prochaines années, les prochaines décennies, son vieillissement va être extrêmement rapide, tout aussi rapide qu'a été la baisse de la fécondité dans les années 70. Et c'est vrai que ce qui est crucial aujourd'hui en Chine, c'est qu'elle a franchi ce que les économistes appellent le point tournant de Lewis, c'est-à-dire qu'elle a sa population en fait de je vais pas rentrer trop dans les détails
d'actifs,
techniques, mais en fait les populations, on va dire, c'est tout un disons que la population âgée va augmenter plus vite que la population adulte, pour faire bref.
Aujourd'hui, voilà. Bon, ce qui compte partout, le nerf de l'économie, c'est les 15-59 ans, c'est ça, ceux qui travaillent, parce que dans les campagnes, on peut travailler jeune, ceux qui consomment, ceux qui payent des cotisations, ceux qui payent des retraites, c'est ça la partie importante de la population pour la croissance, pour l'économie.
Tout à fait. Alors 15-59 ans, je veux dire, ce serait plutôt 20-59, hein, je dirais, parce qu'en Chine, les jeunes Chinois font des études de plus en plus longues. Mais effectivement, il faut savoir que la croissance économique chinoise depuis 30 ans s'est fondée presque exclusivement sur sa main d'œuvre justement extrêmement nombreuse et extrêmement jeune et peu qualifiée, ce qui était un atout pour le développement économique de ce pays. Et à l'avenir, non seulement cette main d'œuvre va être beaucoup moins importante, elle va perdre. Enfin, la population d'âge actif va diminuer de 250 millions entre aujourd'hui et 2050. Donc, il faut imaginer quand même 250 millions. De plus, cette population est aussi de plus en plus qualifiée et également de plus en plus, en moyenne, de plus en plus vieille. Donc, en fait, ce qui veut dire que le marché de l'emploi actuel en Chine n'est pas adapté. Il va vraiment falloir qu'il se réforme en profondeur pour justement pouvoir utiliser cette main-d'œuvre sous son nouveau visage.
Ça veut dire que si demain, en 2050, si les Chinois ne font pas davantage d'enfants, la Chine sera finalement un pays plus vieux que l'Europe.
Ah oui, oui, complètement. Hein? Enfin, que l'Europe en moyenne, hein, parce que la situation de l'Europe est très diversifiée. Mais effectivement, les dernières projections des Nations Unies prévoient si la fécondité en Chine reste stable jusqu'en 2050, on aura en 2050 40% de personnes âgées de 60 ans ou plus dans le pays, ce qui est énorme. Si ils en font un tout petit peu plus qu'aujourd'hui, on passera à 35%, mais c'est quand même énorme. Et il y a deux autres pays dans le monde qui seront à un stade de vieillissement aussi avancé, sont le Japon et la Corée du Sud. Et ce sont des pays non seulement où le processus de vieillissement est très avancé, mais aussi extrêmement rapide. Et en fait, c'est ça qui est, je pense, le principal problème de la Chine aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite qu'en fait, elle est obligée de réformer l'ensemble de son système, que ce soit en termes de protection sociale, de système de retraite et son système, son modèle économique, de manière extrêmement rapide pour s'adapter à ces changements démographiques.
Des questions de nos auditeurs, bien sûr, Jim qui est à N'Djamena au Tchad, Raimi qui est à Porto Novo au Bénin, beaucoup demandent, mais finalement, qu'est-ce qui était à l'origine de cette politique de l'enfant unique et puis pourquoi aujourd'hui on change de politique, Joris?
Ce qui était à l'origine de cette politique de l'enfant unique, d'abord, la réduction des naissances, et là je parle sous le contrôle d'Isabelle Athanet, a commencé avant la politique de l'enfant unique en 1979, et si on note les évolutions de la courbe de la population chinoise, ça a commencé 10-15 ans avant. Donc le pouvoir chinois, déjà sous l'ère de Mao Tse-tung, a pris conscience qu'il y avait un souci de population trop grande.
Là, vous parlez du début des années 70, finalement. On commence déjà à s'inquiéter de la réduction des naissances, c'est ça, grosso modo?
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des campagnes avant, hein, dès le milieu des années 50. Il y en a eu une nouvelle au début des années 60. Et la troisième campagne de contrôle des naissances qui a débuté au début des années 70 et qui est la seule à avoir effectivement entraîné une inflexion de la courbe des naissances.
Joris Zilberman.
Ce qu'on peut voir avec cette politique de l'enfant unique, c'est que la Chine, avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, se dit il faut qu'on sorte le pays du sous-développement, du chaos. Donc on remet de l'ordre, on met le pays en ordre de bataille, et ça veut dire que dans l'esprit de Deng Xiaoping et de l'establishment du Parti communiste à ce moment-là, ça veut dire on contrôle la population. C'est-à-dire que on essaye de sortir ce qu'on ne peut pas retirer au Parti communiste, sortir des centaines de millions de Chinois de la pauvreté, ça veut dire donner à manger à tout le monde. Et donc le parti dit, à ce moment-là, il faut qu'on sache à qui on va donner à manger. Donc il faut qu'on contrôle les naissances, sinon on ne pourra pas donner à manger à autant de monde que cette population chinoise.
Voilà. Et aujourd'hui, on a l'inquiétude inverse. Finalement, il faut qu'il y ait plus de monde qui cotise pour payer, entre autres, les retraites. C'est ça, Isabelle Athanet? À chaque fois, c'est le résultat d'une inquiétude.
Le problème est extrêmement complexe. Alors c'est vrai que dans la motivation de la politique de l'enfant unique, c'était quand même une motivation économique, hein. Et l'idée, c'était d'augmenter en fait là aussi la part de personnes d'âge actif dans la population totale, parce que plus les personnes en âge de travailler sont nombreuses, en fait, plus la charge qu'a chacun d'eux pour assurer la subsistance des enfants et des personnes âgées, plus la charge est faible. Et donc ça a été l'énorme atout, ce qu'on appelle le dividende démographique, l'énorme atout de la Chine. Et aujourd'hui, elle est dans une situation où justement ce dividende démographique est en train de disparaître. Et du coup, effectivement, on sait aussi qu'il y aura de moins en moins de personnes d'âge actif pour payer les retraites. Alors déjà, c'est très compliqué. Il y a un système de retraite qui est en train d'être généralisé dans le pays, mais qui fonctionne globalement assez mal. Et effectivement, c'est un des problèmes.
Yihan, vous êtes journaliste chinoise, vous habitez à Paris. Vous avez quel âge aujourd'hui, d'ailleurs?
Je suis née en 83. Oui. Donc, plus de 30 ans, ouais, maintenant.
D'accord. Et vous avez grandi enfant unique.
Oui.
En Chine. C'était un choix délibéré de vos parents, ou est-ce qu'ils auraient eu l'autorisation d'avoir un deuxième enfant s'ils l'avaient souhaité?
Oui, mes parents aimeraient bien avoir un deuxième enfant, comme les plupart parents qui souhaitent avoir une fille et un garçon, mais ils n'auraient pas pu puisqu'ils remplissent pas les conditions, parce qu'en fait, la politique de l'enfant unique est entrée en vigueur en 1979. Mmh. Et moi, je suis née. Et cette politique a été durcie en 83. Et moi, je suis née en 83. Mmh. Donc, du coup, ma famille a vécu en plein fouet, en fait, de cette politique. Et on peut aussi dire que la génération des enfants 90 est la seule génération qui a vécu cette politique à part entière. Ça veut dire dès sa naissance jusqu'à son âge de fécondité. Mmh. Donc, du coup, on sait ce que c'est d'être d'être enfant unique de la famille.
Vous avez grandi entouré de jeunes comme vous, enfant unique.
Oui, exactement. Oui.
À l'école, au lycée.
Exactement. Donc il y a.
Vous avez grandi en ville, hein.
Oui, bien sûr. Moi, je suis née et grandi à Wuhan. Donc tous mes amis sont tous des fils ou filles uniques de la famille.
Ouais. Et quand vous dites mes parents ne remplissaient pas les conditions, ça veut dire que
eux ils ont des frères et des sœurs, donc eux ils
n'étaient pas enfants uniques.
Voilà, c'est ça. Ouais, exactement.
Ouais. Alors pour qu'on comprenne bien, Joris Zilberman, pour avoir l'autorisation, parce qu'en fait jusqu'à là il y avait des familles chinoises qui étaient tout à fait autorisées d'avoir plus d'un enfant. Hein. L'enfant unique ne concernait pas toutes les familles chinoises.
Très loin là, puisque pratiquement dès le courant des années 80, le gouvernement chinois, le Parti communiste, s'est aperçu que ça marchait très très mal dans les campagnes et que les paysans supportaient extrêmement mal. Donc il faut savoir que dans la Chine d'aujourd'hui, il y avait déjà la moitié des Chinois qui pouvaient avoir un deuxième enfant, à savoir les Chinois ruraux, avec un état civil rural. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir un deuxième enfant à la condition d'avoir eu une fille. Et donc, évidemment, la nécessité pour les paysans de pouvoir compter sur un garçon. Mais il y avait aussi une autre partie des Chinois qui pouvaient avoir un deuxième enfant, c'était dans les villes, les Chinois dont, en tout cas, les couples dont les deux parents étaient eux-mêmes enfants uniques. C'est-à-dire que...
Ce qui n'était pas le cas de Yihan, effectivement.
Exactement. Et ça a été assoupli, d'ailleurs, puisque en 2013, ce n'était plus les deux parents obligatoirement enfants uniques eux-mêmes, mais seulement un parent enfant unique. C'est un peu complexe à expliquer, mais en tout cas, ça veut dire que pratiquement 60% des Chinois n'étaient pas assujettis à la politique de l'enfant unique.
Enfreindre la loi, jusqu'à maintenant, c'était possible ou pas ?
Oui, ça l'a été tout le temps. Alors souvent à un prix très 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 cher payé pour les familles qui décidaient d'enfreindre les prescriptions en termes de contrôle des naissances. Effectivement, par exemple, pour un couple, typiquement un couple citadin fonctionnaire qui enfreignait qu'il y avait un deuxième enfant, le couple perdait son, enfin les deux conjoints perdaient leur emploi. Hein, c'est-à-dire que c'était vraiment la mise à pied. Dans les campagnes, il y a eu des amendes dont le montant a fortement évolué au fil des années. Ces dernières années, elles équivalaient la plupart du temps, souvent à peu près une année de salaire, hein, au minimum, ce qui est considérable. Donc ça, c'est le prix à payer au sens propre, mais il y a eu aussi le prix humain avec une coercition extrêmement forte et qui, on en a beaucoup parlé dans les années 80, mais ça a continué dans les années 90, dans les années 2000 et encore aujourd'hui dans les années 2010, avec des rafles de femmes pour les forcer à avorter, des stérilisations forcées, etc.
Bien sûr, on va y venir, hein, Isabelle Attané, à cette politique de coercition sur les familles chinoises. Dans quelques instants, on va surtout d'abord parler des conséquences économiques et puis de cette liberté pour les couples chinoises. Que vont-ils faire de cette liberté d'avoir deux enfants désormais? She's telling lies about you. She's saying things to get inside my head. I'm not impressed by all the things she said. Ooh, had a phone, now I'm the only one that's got you, baby. Got you, baby. I'm feeling sorry for her. Tonight I'm lying one inside your bed. C'est Nova Heart, c'est un groupe assez connu, hein, Joris Zilberman.
C'est un groupe très connu avec une chanteuse qui s'appelle Hélène Fang, qui avait un groupe qui s'appelait Pet Conspiracy. Je les ai vus plusieurs fois quand j'étais à Pékin, correspondant.
Alors, que vont faire les couples chinois, les familles chinoises de cette liberté désormais d'avoir deux enfants? On a déjà eu des assouplissements successifs, vous l'avez dit, Isabelle Latané, de la politique de l'enfant unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Chinois, quand ils ont la liberté d'avoir un deuxième enfant, est-ce qu'ils la prennent, cette liberté, ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir depuis les annonces du Parti communiste chinois d'autoriser désormais, je le rappelle, tous les couples à avoir deux enfants en Chine?
Alors, pour vous répondre, je vais citer l'exemple de Shanghai. À Shanghai, depuis 2009, donc bien avant fin 2013, où ça a été étendu à l'ensemble du pays, les couples dont l'un des deux conjoints était enfant unique, justement, donc sont autorisés à avoir un deuxième enfant. Et ça n'a eu absolument aucun effet à Shanghai sur la fécondité. À Shanghai, la fécondité est parmi les plus faibles du monde. On est à 0,7 enfants par femme en 2014, donc ce qui est trois fois moins qu'en France, pour juste vous donner une idée. Donc c'est vraiment moi, enfin c'est mon avis de démographe, en tout cas avec mon expérience moins importante que la vôtre du terrain, mais quand même une petite expérience, c'est que effectivement, ce qui devient très compliqué, c'est-à-dire que dans l'idéal, je pense que les couples chinois, comme dans le reste du monde en général, auraient envie effectivement, comme disait Iran tout à l'heure, d'avoir un garçon, une fille. Hein, c'est un petit peu le modèle de famille idéal. Le problème, c'est qu'en Chine, avoir un enfant coûte extrêmement cher, et que ce qui est particulièrement à déplorer, c'est que l'État chinois ne soutient plus du tout les familles dans leur mission éducative, c'est-à-dire que tous les frais d'éducation, de santé, de garde sont presque exclusivement à la charge des familles, et la plupart des familles dans les milieux, je dirais, c'est même cette fameuse classe moyenne dont on parle tant,
urbanisée,
ils ont souvent les moyens de s'offrir un enfant, mais rarement deux. Hein, on estime dès les premières années de l'enfant, un enfant coûte autour de 40% du budget du ménage à ses parents, ce qui est énorme. Donc imaginez si vous en avez deux.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Je me permets de revenir sur en fait la conception d'une famille idéale. Avant, c'était un garçon, une fille, bien sûr, mais c'est pour la génération de mes parents. Mais pour la plupart de mes amis, donc des enfants de 80 ou à partir des années 80, maintenant pour eux, dans l'idéal, je cite spécifiquement pour la ville de Shanghai, hein, donc d'après un sondage, donc il y a 81% de familles qui ne veulent qu'un seul enfant. Il y a seulement 15% de familles qui veulent le deuxième. Et pour eux, la taille de l'enfant d'une famille idéale, voilà, le nombre d'enfants c'est 1,07, donc un enfant. Donc du coup, dans la conception, ça a été changé.
Mais ça, c'est indépendamment des préoccupations matérielles, parce que vous l'avez dit, les études coûtent cher.
Exactement.
Si on prend le tableau imaginaire du bonheur parfait en Chine, est-ce que une femme, un homme se projette avec deux enfants, trois enfants, s'il n'y avait pas de coercition politique et s'il n'y avait pas de problème matériel?
Parce qu'en fait, en Chine, la concurrence est très très forte. Donc pour bien élever, c'est pas élevé. Enfin, tous les enfants peuvent vivre.
Pour faire réussir ses enfants scolairement.
Exactement. Mmh. Et ça coûte extrêmement cher. Donc ça pourrait atteindre jusqu'à 400 000 euros. Donc ce qui vaut déjà un petit appartement à Paris, je pense.
Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est difficile, Jean Zilberman, pour les Chinois de se projeter sur une famille idéale indépendamment des contingences matérielles, financières.
Mais c'est impossible.
C'est impossible.
C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Iran, la compétition pour réussir dans les études et la nécessité de préserver l'équilibre de la famille. Alors évidemment, on pourrait se dire que comme le disait Isabelle Attané, le système de retraite est encore en mode de généralisation et pas très efficace. Donc finalement, la caisse de retraite, c'est les enfants pour les parents. Et donc il en faut le plus possible serait le mieux pour soutenir la retraite des parents. Mais simplement, c'est pas aussi simple parce que ça demande un tel investissement que en plus sur le marché du travail, il commence à y avoir un problème de chômage en Chine. Il y a
beaucoup trop pour les diplômés. Justement, on va en parler juste après le flash parce qu'on a des questions. On a pas mal d'auditeurs qui s'inquiètent pour le chômage en Chine. Quelles conséquences en termes de nombre de personnes en Chine, d'espace et de taux de chômage si la Chine fait plus d'enfants? Eric aussi, ah bah ça c'était Mariam à N'Djamena. Eric à Bamako aussi pose une question similaire. On va y répondre bien sûr juste après le flash. Vous restez avec nous, suite de l'émission sur l'enfant unique en Chine. Que va devenir aussi le planning familial? Immense pouvoir en Chine, la violence exercée sur l'intimité des familles pour le contrôle des naissances. On en parle dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, la fin de la politique de l'enfant unique en Chine. Tous les couples sont désormais, vous le savez, autorisés à avoir deux enfants. On en a déjà pas mal parlé sur l'antenne, les antennes de RFI. Nous prenons le temps aujourd'hui de nous interroger quelles répercussions sur les familles chinoises, dans les villes, dans les campagnes, sur l'économie, sur les libertés individuelles également. On en discute avec vous, Isabelle Attané, démographe et sinologue. Yihan Hu, vous êtes journaliste chinoise à Paris et enfant unique. Joris Zilberman, vous êtes directeur de publication du site d'information Asialiste et ancien correspondant en Chine pour France 24 et RFI. Alors nous revenons à la question, aux questions des auditeurs auxquelles on n'a pas eu le temps vraiment de répondre juste avant le flash. Marianne N'Djamena qui s'inquiète des conséquences en termes de nombre de personnes, d'espace et de taux de chômage, c'est-à-dire si les Chinois sont autorisés à avoir plus d'enfants, les Chinois sont déjà nombreux, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de monde par rapport notamment à la croissance économique, à la capacité de l'économie à absorber les naissances. Et puis Eric à Bamako aussi s'interroge, la fin de cette politique va-t-elle être accompagnée de certaines mesures, c'est-à-dire favoriser l'accès aux allocations sociales, nous dit Eric, prévoir de nouvelles offres d'emploi adaptées à l'augmentation de la population. Ceci dit, vous nous avez dit tous les trois, hein, mais sous réserve, que a priori vous n'aviez pas le sentiment que les Chinois allaient profiter de cette liberté et décider d'avoir plus d'enfants. Alors que répondre à nos amis auditeurs,
Isabelle? Moi, je voudrais juste dire quelque chose qui est quand même très important, c'est-à-dire que la population chinoise, elle va diminuer de toute façon d'ici moins de 10 ans, elle va commencer à perdre des habitants.
Bon, aujourd'hui on est à 1 milliard 360 millions hein, à peu près.
Voilà, et en principe elle va commencer à décliner entre 2020 et 2025, et ça sauf si les Chinois se mettent à faire 3 enfants ou plus. Donc, de toute façon, il y a une certitude, la Chine va perdre des habitants.
Yihan Hu, oui, les Chinois faire 3 enfants
parce qu'en
ou plus.
Fait, je vous rappelle qu'en fait, que d'après les experts chinois, les bénéficiaires entre guillemets de cette fin de la politique est entre 80 millions à 90 millions de personnes, mais environ 40%, plus de 40% ont déjà dépassé en fait 40 ans. Donc du coup, ils arrivent à la fin de l'âge de fécondité. Et ah en oui. plus de ça, en plus de la restriction de cette politique, il y a aussi l'urbanisation, il y a aussi le retard de l'âge d'avoir un enfant. Tout ça, ça se rajoute. Donc du coup, ça va pas vraiment avoir un effet immédiat.
C'est ça, sous-entendu, c'est trop tard finalement.
Bah, c'est
cette
trop tard dans ce sens-là, mais une réflexion que tout cela m'inspire, c'est que on parle beaucoup donc de faire un enfant en Chine quand on est urbain. Mais est-ce qu'on sait exactement prédire ce que vont faire les ruraux qui eux ont des comportements qui sont forcément différents? Il y a un phénomène dont on pourra peut-être parler davantage chez les enfants illégaux en chinois, Heihu, qu'on peut traduire aussi par les enfants noirs. Aujourd'hui, le dernier recensement de la population chinoise datait de 2010. Les résultats ont été connus plus tard, et d'après ce recensement, il y aurait 13 millions d'enfants illégaux. En réalité, les experts parlent peut-être jusqu'à 60 millions d'enfants.
Alors, qui ne sont pas déclarés à la naissance parce que pas autorisés, que les familles ne pouvaient pas payer les amendes.
Exactement, il y a quand même beaucoup.
Qui sont passés à travers les mailles du contrôle du planning familial.
Il y a tous ces enfants qui n'ont pas d'état civil, qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas d'avantages sociaux. Qu'est-ce qui va advenir d'eux? Et il y a toutes ces familles qui veulent avoir des enfants dans les campagnes. Qu'est-ce qui va se passer?
Là, on en sait pas plus sur la psychologie collective des familles, l'intimité des couples dans les campagnes, c'est ça finalement?
Non, mais alors il y a aussi une variable supplémentaire qui va s'ajouter, c'est-à-dire que un des objectifs du gouvernement chinois à très court terme, c'est de développer, d'urbaniser massivement le pays. Et à l'horizon, je crois, 2020-2030, je sais plus, c'est l'idée, c'est d'atteindre 70% de population urbaine. Donc on aura de moins en moins de ruraux. Donc même si les ruraux...
Et donc de moins en moins de désir d'enfants, du coup, c'est ça, finalement?
C'est-à-dire qu'en général, oui, les démographes observent que en général, effectivement, quand un pays s'urbanise, la fécondité baisse.
Alors, en septembre dernier, nous diffusions chez 7 milliards de voisins l'interview d'une des grandes figures de la dissidence chinoise, Chen Guangcheng, qui était de passage à Paris pour la sortie de son livre. Il est originaire de la province du Shandong, au nord-est de la Chine. Je vous propose de réécouter juste une petite partie de ses propos sur la violence politique de l'enfant unique, qui est toujours d'ailleurs l'une des grandes causes du dissident chinois.
En Chine, la politique de l'enfant unique,
en fait, c'est même plus dur que ça. Même le premier enfant, quelquefois, peut être interdit si le gouvernement le décide ainsi. Et puis, le problème, c'est qu'il y a toute une administration qui tourne autour du planning familial. Et donc, ces fonctionnaires doivent faire leur travail, parce que s'ils n'ont pas suffisamment de baisse de natalité, alors ils ne progressent pas dans leur travail. Du coup, ils utilisent les méthodes les plus violentes pour empêcher les femmes de concevoir ou d'accoucher. Il y a beaucoup de parents qui ne voulaient évidemment pas avorter, mais on était absolument forcés à le faire. Les fonctionnaires pouvaient entrer de force dans la maison des paysans, chercher les femmes dans leur lit, les jeter dans une camionnette, les amener sur le lit d'accouchement pour les forcer à avorter. Certains enfants étaient déjà parfaitement formés, ils étaient viables, et donc quelques-uns, quand ils étaient extraits du ventre de leur mère, ils pleuraient encore. Les fonctionnaires pouvaient prendre ces bébés, leur tordre le cou ou les jeter dans un seau d'eau. Quelquefois, si jamais une femme réussissait à s'enfuir, à ce moment-là, on arrêtait tous les voisins, toute la famille. On pouvait mettre les voisins, la famille, dans des pièces fermées. On exerçait des pressions et des tortures sur ces gens-là jusqu'à ce que la femme enceinte revienne. Enfin, toutes ces méthodes sont totalement illégales et violentes. En l'espace de 6 mois, dans mon district, à l'époque, il y avait 130 000 femmes qui ont été forcées à avorter pendant l'année 2005. Mais malgré tout, je crois que à travers ces enquêtes et tout ce que nous avons dévoilé sur le comportement monstrueux du Parti communiste chinois, nous avons pu sauver la vie peut-être de 90 000 bébés qui ont eu l'occasion de naître parce qu'on avait un peu calmé la violence de la répression. Et le fait d'avoir obtenu ce résultat, je me dis que c'était quand même pas mal joué.
Ce sont des choses qui n'arrivent plus.
En fait, le planning familial n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, le Parti communiste chinois se comporte de la même façon. Par exemple, les femmes sont obligées d'aller faire des examens gynécologiques tous les 3 mois pour qu'on vérifie si elles ne sont pas enceintes. Et si les femmes ne viennent pas au moment décidé par le gouvernement, on les poursuit comme si elles étaient des criminels. Et c'est toujours comme ça maintenant. Et donc, quand j'ai fait savoir tout cela au monde entier, que j'ai transmis ces informations, le Parti communiste était furieux contre moi. Et c'est bien pour ça qu'il s'est vengé d'une façon aussi violente à mon égard.
Le dissident chinois Chen Guangcheng, Joris Zilberman, le planning familial aujourd'hui, comment fonctionne-t-il? Quel est son pouvoir sur le contrôle des naissances?
Mais le pouvoir est absolument énorme. Il a été investi d'un pouvoir énorme pour contrôler l'augmentation ou permettre une diminution de la population. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais le planning familial, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord d'immenses revenus issus des amendes imposées aux familles qui sont en infraction, qui ont un enfant de trop par rapport à la loi. Alors, c'est quoi les amendes? C'est parfois plus du triple du salaire moyen de la ville ou du district dans lequel on vit. Donc, c'est absolument énorme pour la majorité des Chinois. Donc, arrêter comme ça la politique de l'enfant unique, ça occasionne des oppositions à l'intérieur de l'establishment chinois et évidemment de la part des potentats du planning familial. Donc le planning familial.
Ça ne veut pas forcément dire la fin des amendes. Ça veut dire la fin des amendes de 1 à 2 enfants. Mais au-delà de 2 enfants, on peut imaginer que les amendes vont continuer d'être perçues.
Bah absolument, puisque on a le droit d'avoir 2 enfants en Chine, mais on peut pas avoir 3 enfants. Donc c'est pas du tout la fin du planning familial. C'est pas la fin de la coercition. Et ce que disait Cheng Kuo-chung, et ça va continuer ces avortements forcés et ces violences qui sont plus ou moins violentes selon les régions, selon les régions recluses aussi, extrêmement éloignées du pouvoir central et de ses avocats des droits de l'homme ou des médias qui essayent d'empêcher ces agissements.
Isabelle Attané, sur le planning familial.
Oui, disons que sur la mise en œuvre, effectivement, il faut rajouter que jusqu'à présent, en fait, chaque localité, chaque année, se voyait accorder un quota de naissance. C'est-à-dire, par exemple, dans un village lambda, on pouvait autoriser une année donnée 50 naissances, par exemple. Quelquefois, certains couples pouvaient se voir refuser la naissance du premier enfant. On leur disait attendez l'année prochaine ou l'année d'après. Et à la fois, on pouvait aussi autoriser, si on restait des quotas de naissance, certaines familles à avoir 3 enfants ou 4, etc., etc. Donc, et moi, je pense, je sais pas encore, parce qu'on n'a pas les modalités précises de la mise en œuvre de ce nouvel assouplissement. Mais si ce principe des quotas est maintenu et laissant d'une certaine manière
une forme de souplesse.
Une forme d'arbitraire, façon, j'ai plus envie de dire d'arbitraire que de souplesse. Et du coup, ça laisserait une possibilité aux cadres locaux de continuer à exercer leur tyrannie sur ces femmes. Et malheureusement, j'ai peur que Il trouve de nouveaux moyens d'extorquer des sommes importantes aux familles pour pouvoir continuer à payer toutes les charges des communes.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Chine un débat? Bon, dans les réseaux sociaux, l'annonce de la fin de la politique de l'enfant unique a pas été une déferlante de commentaires, hein, je crois, Yihan Hu. Parce que j'ai cru lire dans les articles que bon finalement il y avait eu une forme de haussement d'épaule qui pourrait coïncider avec le fait que les couples chinois ne sont pas dévorés par le désir d'enfant à l'heure actuelle, ce que vous veniez de dire, non, Joris?
C'est-à-dire que il pouvait pas y avoir une bronca ou une surprise énorme. Ça fait 10 ans que le gouvernement parle d'en finir avec cette politique. Donc tous les Chinois s'y attendaient, le désiraient. Certains, effectivement, on a vu des gens sur Weibo, les plateformes de microblog chinoises, des gens qui disent effectivement trop tard parce qu'on peut plus avoir d'enfants. Mais certaines personnes qui disent aussi, c'est pas la fin du planning familial, pour revenir sur ce qu'on disait. Donc c'est pas une immense surprise.
Ouais, mais il y a un débat sur le fait que finalement la politique ne devrait pas intervenir sur le fait de décider du nombre d'enfants dans l'intimité des familles chinoises. Est-ce que là il y a un débat d'ordre politique?
Je pense sur le débat ouvert politique en Chine, c'est un petit peu compliqué quand même. C'est quand même quelque chose d'assez sensible. Je voudrais citer un écrivain chinois qui n'est plus en Chine, qui est en exil à Londres, qui s'appelle Matienne, et qui a écrit un roman à la fois beau et assez sombre, où il disait le drame des femmes chinoises, c'est qu'elles ne possèdent pas leur corps, c'est que c'est l'État, et en l'occurrence c'est le Parti communiste chinois, qui possède le corps des femmes chinoises, à moins qu'elles soient à l'intérieur de la loi ou qu'elles aient les moyens de payer les amendes.
Dans quelques instants, on parle aussi de ces enfants illégaux. Vous le disiez il y a un moment en première partie d'émission, ils sont sûrement des millions en Chine, hein, ces enfants qui sont nés illégalement de parents qui ne pouvaient pas payer les amendes, qui avaient échappé aux avortements, et puis bien sûr aussi de la distorsion entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes en Chine. C'est aussi une des conséquences de la politique de l'enfant unique depuis près de 40 ans.
Is 箱子能不能装得下，一节火车能不能坐得下，一个广场够不够大，有个胆小鬼躲在年轻里长出根白头发，卑鄙的胜利者才能站上城楼讲讲话，有个哑巴在笑慢慢哭了出来，他面朝坦克唱歌越唱越像丧钟，在热恋中你突然想要逃跑，不要心怀愧疚也不要怀疑人性，让他们尽管去怀疑，就像由着他们去相信，那些英雄的纪念碑，沉重的大理石，庄严的大礼堂，漫长的演讲，还不如抛出个石头，左的左右的右，早该扯下孩子胸口被血染红的丝绸，把漫长的恐惧压缩成了一个借口，这个地方不新不旧，不走也不留，兄弟本是逍遥客，什么大山大河哥们没见过，说过多少再见你从来都笑着，第一杯敬万古江河，第二杯敬所有流离失所，和兄弟本是逍遥客，多少星辰日月哥们都穿梭，数不清的悲欢离合擦肩过，心的墙上伤心的人都雕刻，伤心的是从不记得。
Joris Zilberman, vous avez enquêté sur ces enfants justement qui naissent hors déclaration des naissances en Chine, une des conséquences de la politique de coercition de l'enfant unique qui prend fin après près de 40 ans, les couples sont désormais autorisés à avoir deux enfants. Est-ce que vous pensez que ces enfants illégaux, d'abord dites-nous un peu où on en est avec ces enfants illégaux, est-ce que ça prendrait fin ou pas ?
C'est-à-dire que c'est pas sûr que ça prendrait fin, puisqu'il y a quand même beaucoup de familles qui avaient fait un ou des enfants illégaux, qui est après avoir fait un enfant légal entre guillemets, donc c'est pas sûr. Voilà, un enfant déclaré et puis un voire deux enfants non déclarés. Donc je le disais tout à l'heure, selon des estimations, il y aurait peut-être 60 millions d'enfants illégaux, des enfants noirs, des rehu. Moi, j'avais fait une enquête qui remonte à 2010, donc il faudrait confirmer. Et c'était une enquête qui n'était pas plus loin que la banlieue de Pékin. Et j'avais pu filmer, interviewer deux familles. Une famille dont le papa était professeur à Tsinghua, c'est-à-dire une des plus importantes, peut-être l'une des plus prestigieuses universités en Chine. Et le papa était en rébellion contre la politique de l'enfant unique. Et donc, et il m'avait dit, mais venez filmer. De toute façon, comme c'était aussi l'époque où il y avait ceux qui faisaient le recensement. Donc, en 2010, il disait, mais je m'en fiche, je leur montrerai, je supporterai les conséquences. Et la deuxième famille que j'avais rencontrée, là, c'est, le papa était un commerçant vraiment lambda, et il s'était lancé dans le militantisme pour les droits de l'homme. C'est aussi pour la raison
Il avait eu combien d'enfants, lui ?
Et lui, il avait eu deux enfants. Un enfant légalement et un enfant, une petite fille qu'il nous avait présentée, qui était illégale. C'était quelqu'un qui était en lutte. Et c'était aussi pour ça que j'avais pu filmer ces gens-là.
Mais alors finalement, donc, ces enfants illégaux, alors aujourd'hui, ils ont toutes les peines du monde à être scolarisés. Hein. C'est un parcours compliqué pour ces enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance.
C'est des enfants qui vivent dans une zone grise, selon une expression chinoise, c'est-à-dire c'est pas possible la scolarisation, il faut leur trouver un travail comme on peut, il faut leur trouver une existence, c'est extrêmement délicat. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants ? Il faut absolument, et par contre, ça, c'est dans le débat public sur la régularisation, entre guillemets, de ces enfants, la réintégration dans la société civile, dans l'état civil chinois, c'est fondamental comme problématique.
Sur toujours les conséquences de la fin de la politique de l'enfant unique, Isabelle Attané, donc, on a parlé des enfants illégaux. Est-ce que vous voyez d'autres conséquences dont il faut que nous parlions aujourd'hui?
Le déséquilibre des sexes, peut-être, qui est effectivement, une conséquence, enfin la fin de ce déséquilibre des sexes, qui serait une conséquence positive attendue de cet assouplissement du contrôle des naissances. Moi, j'ajoute toujours que le déséquilibre des sexes, il faut savoir qu'en Chine aujourd'hui, il naît une proportion de garçons par rapport au nombre de filles qui est 15% supérieure à la normale, à ce qu'on observe partout ailleurs dans le monde. Et que
donc ça veut dire quoi? Avortement sélectif?
Avortement sélectif. Mmh. Avortement sélectif. Et il y a aussi en Chine une surmortalité des petites filles qui est extrêmement importante. La Chine est, et j'insiste bien là-dessus, la Chine est le seul pays dans le monde dans lequel les petites filles meurent plus que les garçons avant le premier anniversaire. Donc ça, il
ça
faut quand même
d'un défaut de traitement.
Ça tient principalement sanitaire. Effectivement à des différences de traitement entre filles et garçons chez les bébés, mais ce sont pas des pratiques conscientes de la part des parents. C'est-à-dire qu'une fille, on va tarder un peu plus avant de l'emmener chez le médecin si elle est malade. Un bébé garçon, on va lui procurer du lait maternisé pour le nourrir, alors que la petite fille, très vite, on va lui donner une alimentation, la même alimentation qu'on donne aux adultes, etc. Et ce sont un ensemble de facteurs qui font que, effectivement, la mortalité des petites filles est extrêmement élevée en Chine. Alors moi, ce que je dis pour le déséquilibre des sexes à la naissance, donc qui lui est dû aux avortements sélectifs, qui sont pratiqués de manière très très fréquente en Chine, ça n'est pas une conséquence de la politique de l'enfant unique, c'est une conséquence de la baisse de la fécondité. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire que politique de l'enfant unique ou pas, si la fécondité chinoise ne remonte pas, il y a peu de chances que cette courbe s'inverse. Alors, elle s'est de fait inversée.
Hein.
Il y a eu un pic, je crois, en 2008, hein, 120 garçons pour 100 filles à la naissance, alors que la norme, c'est 105 garçons pour 100 filles à la naissance. Donc là, ça baisse un petit peu depuis 4-5 ans.
Si les mentalités changent, si le fait d'avoir un seul enfant, par exemple, vous, Yan Hu, vous êtes enfant unique, une fille, est-ce que pour vos parents, c'était une déception? Est-ce que c'était perçu socialement comme une déception? Est-ce que c'est en train de changer dans votre génération?
Non, déjà,
et la suivante.
Non, je pense pas que je sois une déception pour mes parents. Et en plus, je pense que c'est en effet en train de changer et de plus en plus, parce qu'en fait, dans la conception, un garçon, ça coûte plus cher d'avoir une vie réussie. Ça veut dire un garçon doit réussir ses études pour pouvoir survivre dans la compétitivité, dans le marché de travail, par exemple. Et en plus, pour le mariage, pour épouser une femme, c'est extrêmement cher. Tu dois tout préparer, un logement, donc au moins un logement pour y habiter. Donc du coup, maintenant...
D'autant plus que les femmes ne sont pas assez nombreuses, donc pour pouvoir trouver une femme de son milieu social.
Donc il faut être mieux que excellent, quoi. Donc du coup, maintenant, les parents disent que maintenant, pour avoir une fille, c'est un investissement. Donc on investit sur le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir.
Vous entendez des familles qui disent ça?
Pas de famille. C'est une comparaison, en fait. C'est investment bank.
Oui, mais c'est formulé clairement, ça.
Non, pas du tout. Non. C'est dans les réseaux sociaux, c'est des blagues comme ça.
Ah, c'est ça, c'est ça. Donc c'est bien formulé sur les réseaux sociaux, dans les conversations.
Dans les conversations, oui.
Ouais. Joris Ilberman.
Ce qui est important, c'est que un autre impact de cette politique de l'enfant unique, c'est effectivement sur l'épargne. On parlait d'un investment bank, cette expression. En gros, on fait des enfants, on investit. Avant, on pouvait pas faire un deuxième enfant, donc les Chinois épargnaient. Alors, ce qu'espèrent l'État chinois, c'est que en faisant un deuxième enfant, ils vont donc investir dans l'économie plutôt que de garder leur argent en banque.
Alors finalement, aujourd'hui, Isabelle Attané, la fin annoncée de la politique de l'enfant unique, c'est une réelle nouvelle pour l'économie, pour la société, pour les libertés individuelles. Que faut-il vraiment en retenir avec tous les inconnus qui sont encore bien là, puisqu'on ne connaît pas dans le détail la façon dont cette nouvelle politique va être appliquée. Et d'ailleurs, vous nous le disiez, la Chine est un grand pays en fonction des régions, villes, campagnes, etc. Il va y avoir des situations extrêmement différentes.
Tout à fait. Alors, on peut dire qu'effectivement, en théorie en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les libertés individuelles. Hein. C'est-à-dire que si effectivement les couples ont cette liberté-là, ce sera vraiment une première victoire. Pour l'économie, il faut savoir que même si les Chinois se mettent à faire plus d'enfants dès demain, il va falloir attendre un certain temps avant qu'ils puissent arriver sur le marché du travail et à leur tour faire partie des forces productives. Donc je dirais que pour l'économie, si tant est que cette politique est un effet, il faudra qu'il y ait un nombre de mesures supplémentaires, hein, et comme je disais au début de l'émission, notamment restructurer l'ensemble du système économique pour que finalement ça se transforme positivement d'un point de vue économique.
Oui, je rajoute parce qu'en fait pour l'économie, il y a au moins trois secteurs économiques qui vont être heureux en fait de cette mesure, c'est les produits laitiers, l'automobile et immobilier.
Produits laitiers pour nourrir les bébés, c'est ça?
Oui.
Et puis donc
automobile. Automobile par exemple des voitures de 7 sièges. Voilà, donc qui est conçu pour les enfants.
Oui, optimiste. Oui, c'est ça. Il y a encore. Et puis troisième secteur, vous avez dit
immobilier.
Oui, d'accord. Le logement.
Oui, le logement.
Et bien sûr, avant qu'on se quitte, il faudra quand même dire que tout ça ne va pas participer dans l'immédiat à réduire les immenses inégalités entre les enfants qui naissent. Hein, la génération des petits empereurs, les enfants très gâtés, enfants uniques, et puis ces enfants nés illégalement ou en tout cas qui travaillent dès leur plus jeune âge dans les usines. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Isabelle Attané, démographe, sinologue, vous avez publié Au pays des enfants rares chez Fayard, vous préparez un ouvrage qui sortira en janvier prochain, La Chine à bout de souffle, chez le même éditeur. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran et Romain Dubrac, et puis bien sûr à vous, Yaran Hu, journaliste chinoise, et Jory Zilberman. On rappelle le site asialiste.com, c'est très simple de se souvenir, site d'information dédié à l'Asie. Demain, 7 milliards de voisins, la parole est aux jeunes diplômés qui veulent entreprendre sur le continent africain, avec bien sûr les conseils du coach Didier Akwete. Si vous avez un projet, si vous êtes en train de créer votre petite entreprise et que vous butez sur certaines difficultés, nous appelez dès maintenant pour dialoguer avec Didier Akwete. Voici un petit aperçu des discussions dans l'émission.
Allô. Oui, bonjour. On veut créer des jeux vidéo made in Africa.
Je trouve que c'est génial. Vous avez l'avenir devant vous.
C'est très intéressant pour moi.
C'est plusieurs centaines de milliards de dollars.
C'est un aspect des choses que je n'avais pas vu, en fait.
Alors ça, c'est pas du tout une bonne stratégie. Il est hors de question que l'Afrique n'en profite pas.
Les voisins, les voisines, envoyez-nous vos projets d'entrepreneuriat à 7milliards@rfi.fr et recevez les conseils du coach en direct sur RFI.
On veut des jeunes qui y croient, qui ont envie d'être des patrons et de diriger l'Afrique demain.
Voilà, dialoguer avec Didier Akwete ou faire un petit stage en Chine, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous nous appelez pour participer à l'émission avec Didier, 33 1 84 22 71 71, et on se cause demain en direct. Merci à vous tous les voisins, les voisines.